Merci de m'avoir accueilli ce matin. Je suis très content d'être avec vous, de louer le Seigneur avec vous. Et ça me fait toujours bien de voir les églises qui envoient leurs gens en mission. Les églises qui font partie de la mission de Jésus, d'annoncer l'Évangile et de faire des disciples. Je suis moi-même missionnaire. Je m'appelle Ted. Je viens des États-Unis, de Texas, en fait. Et ça fait que 3 ans que je suis ici en France. J'habite ici avec ma famille dans la région parisienne. Je travaille avec OM. Et je crois qu'il y a une petite photo de ma famille. Puisqu'il y a la rentrée demain, il ne peut pas venir. Mais, Oui, voilà. C'est ma famille et nous avons 4 enfants et tout. Donc, j'étais pasteur aux États-Unis, travaillant avec mes amis les plus proches. J'étais très content. Et en 2012, après une semaine d'évangélisation à Clermont-Ferrand, nous avons décidé que Dieu avait mis un appel sur nos vies. De venir et vivre en France. Et donc, c'est pour ça que je suis travaillé avec OM en tant que responsable de relations avec les églises. Et avant que je finisse mon histoire et partage le message ce matin, je voudrais partager une vidéo qui parle un peu d'OM ici en France et aussi à l'étranger.
OM cherche à mobiliser pour la mission. Depuis 1957, OM encourage les chrétiens à prier, donner et aller dans tous les pays pour y faire des disciples et être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, OM c'est plus de 6000 personnes qui travaillent sur son bateau Logos Hope et dans 110 pays dans le but de faire connaître Jésus par l'évangélisation, l'aide humanitaire, l'implantation d'églises, les actions en faveur de la justice et la formation de disciples. Nous avons besoin de personnes pour prier, donner et aller dans les 5 domaines suivants. Évangélisation. Christ nous a donné l'ordre d'aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. L'objectif d'OM est que tous connaissent Jésus. Nos équipiers à court ou moyen terme partagent l'amour de Dieu avec ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. Aide humanitaire. OM aide ceux qui souffrent et contribue à restaurer la dignité des plus pauvres. Dieu devient accessible lorsque nous manifestons en son nom miséricorde et compassion à ceux qui en ont besoin. OM donne aussi la possibilité à des entrepreneurs chrétiens d'avoir un impact pour le royaume de Dieu, là où ils se trouvent. Implantation d'église. OM cherche à établir des communautés chrétiennes solides avec des responsables locaux. Nous souhaitons que les groupes naissants deviennent des églises autonomes qui témoignent dans leur région. OM sert l'Église en cherchant à promouvoir la mission, l'intercession pour le monde et une vie de disciple radical. Action en faveur de la justice. Le rôle du peuple de Dieu est de libérer les opprimés et de parler pour ceux qui n'ont pas de voix. L'Évangile peut transformer des vies. OM œuvre dans la société pour que les injustices soient mises en lumière et pour apporter de l'espoir à ceux qui sont persécutés. Formation de disciples. À OM, la formation se fait sur le tas, au sein d'équipes internationales engagées sur le terrain. La responsabilité mutuelle des équipiers les engage et contribue à leur développement. Les formations qui leur sont proposées leur permettent d'avoir à leur tour un impact sur de nombreux autres jeunes. Vous vous posez peut-être la question, que puis-je faire, moi, face à tous ces besoins dans le monde? Vous pouvez prier. Les chrétiens et les églises grandissent en priant. OM vous tient à jour des derniers sujets de prière dans ses lettres de nouvelles, ses sites internet et ses rencontres d'information. Dieu nous appelle à prier pour le monde. Vous joindrez-vous à nous? Vous pouvez aussi donner. Donner permet de faire une différence et de manifester l'amour de Dieu de façon concrète. Les ministères d'OM et les équipiers qui y travaillent sont dignes de votre confiance. La transparence est l'une de nos valeurs essentielles. Nous vous encourageons à devenir partenaire de l'un des ministères que Dieu vous met à cœur. Vous pouvez encore aller. OM vous offre la possibilité de partir quelques semaines ou toute une vie. Venez simplement avec vos dons et le désir d'apporter l'espérance et une transformation radicale dans le monde. De nombreux jeunes font leurs premières expériences missionnaires avec OM. Dieu peut vous utiliser pour avoir un impact éternel dans la vie de beaucoup. Dieu nous appelle à travailler ensemble pour accomplir sa volonté. Quel rôle allez-vous jouer ?
Donc voilà, ça c'est un peu de notre présence dans le monde. Ce qu'on fait ici en France, mais aussi à l'étranger. Et il faut que je vous dise tout d'abord, je suis désolé pour toutes mes fautes de la langue de français. j'ai appris le français ici en France, j'ai pris un cours de 16 mois à Massy, qui est juste sud de Paris. Et donc désolé, tout d'abord désolé si j'ai fait des erreurs et tout ça, mais j'espère que les paroles de Dieu vont sortir quand même, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'idées créatives avec OM. Et ici en France, nous avons un projet pour cette année au niveau d'Europe qui s'appelle le projet Riverboat. Il y a quelques photos là. Parce que vous avez vu, bien sûr, le grand bateau, le Logos Hope, mais on n'a plus le droit d'aller en Europe et ni en Amérique du Nord avec le grand bateau. Et donc, nous avons loué ce bateau-là pour faire tous les fleuves d'Europe. Et ce bateau-là va faire le Rhin. Et il a déjà commencé aux Pays-Bas et il va descendre jusqu'au Strasbourg. Et il y a un site web, je ne sais pas, c'est la page Facebook. Et sur ce bateau, nous proposons une expérience unique qui s'appelle l'Escape Room 2.0, qui va donner aux gens une opportunité d'aller plus loin dans leur foi. Et c'est organisé par OM, par des gens qui sont vraiment plus créatifs que moi. Mais on espère qu'à travers ces escape rooms, on peut montrer quelque chose sur l'évangile et tout ça. Et aussi, en parlant des bateaux, on a aussi le Logos Hope qui est en Colombie en ce moment. Et je peux préciser un peu, je sais que Margot, elle a déjà fait une présentation d'OM, mais j'ai quelques photos aussi. Mais en général, le bateau, ça prend plus ou moins 2 semaines sur un port dans un pays comme Colombie. Et on va faire avec le bateau pendant les deux ans et demi, les prochaines 2 ans et demi, un circuit d'Amérique latine. Où on va faire beaucoup de choses. Donc tout d'abord, sur le bateau, il y a cette librairie flottante. Je ne sais pas comment dire exactement, mais qui propose des livres éducatifs et créatifs. Et ça, c'est vraiment, cette librairie, c'est une porte qui nous donne une occasion de partager la bonne nouvelle à travers ces livres et tout, avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et également, il y a aussi des équipes sur le Logos qui se rejoignent les églises locales pour les aider de toucher leur communauté à travers les formations, les semaines d'évangélisation et l'aide humanitaire aussi. Donc ça, c'est un peu un résumé de le bateau. Et puisque vous allez envoyer Margot de servir Dieu sur le bateau, vous faites partie de cette œuvre. Et ça, c'est vraiment une joie, n'est-ce pas? C'est une joie de partager ce travail que Dieu nous a donné. Et comme je disais tout à l'heure, j'étais pasteur aux États-Unis, et ici et là-bas, nous avons la même mission. On a chanté beaucoup aujourd'hui de la mission que Dieu nous a donnée. Et en fait, je vais prendre un texte de Matthieu, chapitre 28, et versets 18 à 20. Et en tournant là, on va prier, n'est-ce pas? Seigneur, merci beaucoup pour tes paroles. Merci surtout aujourd'hui pour Margot et pour sa décision de te servir pendant un an sur le bateau à l'étranger. Et Seigneur, merci que tu parles encore que tu es avec nous aujourd'hui et demain et jusqu'au bout, Seigneur. Merci que on peut vraiment compter sur toi, Seigneur, parce que tu es fidèle. Et je prie ce matin que tu vas parler à travers moi, que tes paroles seront claires aujourd'hui et que la Bible va parler à nous. En ton nom, amen. Amen. Dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 et 20, et on va rester un peu dans le livre de Matthieu, mais tout d'abord, verset 18, nous dit que Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Quelle promesse. Et je ne serais pas une bonne missionnaire si je n'utilisais pas ce texte, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment le texte missionnaire. Mais Jésus, il nous a donné quelque chose à faire. Et pendant ces dernières années, ces derniers 100 ans, l'Église évangélique a été vraiment mobilisée pour changer le monde. Et nous avons fait, en tant que chrétiens, en tant que l'Église, beaucoup de choses. Et nous continuons à faire ces choses. Jésus nous a dit, allez, faites, baptisez, enseignez. Ce sont des choses d'activité, d'action. Et j'étais aussi, moi-même, mobilisé par ces mots de Jésus. Quand j'avais 19 ans, ma femme et moi avons eu l'impression que Dieu nous appelait de devenir missionnaires. Depuis 1997 et 2012, nous avons servi dans nos églises, dans les différents domaines, sans avoir jamais vraiment été missionnaires. Au tel point que nous avons décidé de se passer les flambeaux aux enfants. Nous sommes venus à Clermont avec l'idée de laisser les enfants voir Dieu agir et agir dans un autre pays, dans un autre contexte. Mais c'était là où Dieu nous a rappelé de son appel sur nos vies. Et entre 2012 et 2015, nous avons dû nous former un peu, nous chercher les fonds pour aller ici et vivre ici. Nous avons partagé notre cœur pour la France et notre passion d'aider les églises locales et les pasteurs et les responsables en particulier. Et Dieu est toujours fidèle. Nous sommes entourés maintenant par notre famille, nos amis, notre église, pour que nous puissions travailler avec eux en France. Et je crois que peut-être Margot, tu as le même sentiment d'être entourée par ta famille, ton église aussi. Et c'est une bonne chose. Mais tout cela, pour moi, n'était pas sans difficulté. En 2015, en janvier, ma famille et moi sommes entrés dans une nouvelle culture, avec une nouvelle langue dont nous étions obligés d'apprendre. J'étais un vrai débutant. Grâce à notre semaine en France en 2012, je ne savais dire que les jours de la semaine et que les chiffres jusqu'au 10 en français. Et c'était tout. Donc j'étais vraiment débutant. En janvier 2015. Et Michel et moi avons commencé notre cours de français, mais chaque fois que je voulais m'exprimer, je n'arrivais pas. Et les gens me regardaient comme j'étais un enfant de 5 ans. Et c'était très décourageant parfois. Et pas du tout ce que j'attendais. Et pendant cette période de ma vie, il m'a semblé que je ne pouvais rien faire pour Dieu. Je savais que j'ai eu une responsabilité de faire toutes les choses que Jésus m'a commandées. Allez, faites, etc. Mais je ne pouvais pas. Après quelques mois, j'ai vécu une crise d'identité un peu. parce que j'ai prié, Seigneur, tu m'as appelé. Tu m'as appelé d'être ici en France. Mais que puis-je faire? Parfois, je ne sais même plus qui je suis. Et j'ai eu les yeux fixés sur ces commandements. J'étais si occupé par le manque d'activité visuelle dans ma vie, mes incapacités, que j'ai manqué aussi la chose la plus importante. Et c'était là où Jésus m'a répondu. Avant de faire quelque chose, il faut être. Et voyez-vous, en allant dans notre pays, j'ai perdu mon identité. Je n'étais plus pasteur, mes amis étaient très loin de moi. Toutes les choses que j'ai utilisées là-bas pour m'identifier avaient changé. Il me fallait revenir au mot de Jésus pour retrouver mon identité. Il y a beaucoup de textes qui parlent de notre identité. Nous sommes des fils et les filles de Dieu. Amen. Nous sommes un peuple saint, etc. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Et on va prendre Matthieu chapitre 5 pour voir une autre fois. Et là, on peut aussi trouver notre identité. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. On va voir ici Jésus qui parle de notre identité. Il nous a dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendre-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sur un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Et je voudrais préciser un peu ce contexte de ces versets. Juste avant, Jésus a appelé ses premiers disciples. Il y a des disciples qui étaient sur leur bateau. On parle beaucoup de bateaux ce matin. Mais ils étaient là, en train de pêcher et tout. Mais ils ont laissé tout, comme on a chanté ce matin, on va donner tout à Seigneur. Ils ont laissé, ils ont donné tout pour le suivre. Et puis, il les a dit de s'asseoir sur la montagne où il a commencé à les enseigner. Il les partageait les béatitudes juste avant, en Matthieu chapitre 5. Et les béatitudes sont plus ou moins une description de les comportements de Jésus. De ses comportements. Lui, Jésus, il avait faim et soif de la justice, n'est-ce pas? Il avait un cœur pur, etc. Donc, quand on lit les béatitudes, on peut voir les comportements de Jésus. Et c'est très important. Et puis, après tout cela, il a donné à tous ceux qui étaient là ces paroles. Que vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, Jésus leur a donné une identité avant de leur donner une mission. Et c'est la même chose pour nous. Parce que d'être sel et la lumière, qu'est-ce que cela signifie? Notez bien que ces mots de Jésus étaient pour tous qui étaient là. Mais ils sont aussi pour nous. Jésus s'adressait à tous ceux qui s'étaient rassemblés autour de lui sur la montagne. Ce n'est pas juste ses disciples qui étaient là. C'était un foule de gens qui étaient là. 5 000, plus ou moins. Et on peut voir qu'il a parlé à tout le monde. Jésus ne s'adressait pas juste aux pasteurs ni aux missionnaires. Ses paroles sont pour nous tous. Aujourd'hui. Donc nous sommes clairement le sel de la terre et la lumière du monde. Et en étant ces choses, nous faisons ce que Jésus nous a commandé. Vous voyez, en étant ces choses, puis on peut faire ce que Jésus nous a commandé. Par exemple, à cette époque-là, le sel était une aide pour la conservation de certaines choses comme les viandes. On emballait un morceau de viande avec du sel afin de la conserver. Le sel, il ajoute du saveur pour nos repas, n'est-ce pas? Il a un goût très distinct. Ou même, les scientifiques aujourd'hui nous disent que si nous sommes blessés, quelque part, notre corps utilise du sel comme un agent de guérison. Ça, c'est du sel. Et pour la lumière a toujours attiré les gens. La lumière nous guide quand la nuit tombe ou si nous nous retrouvons dans les ténèbres. Et combien de fois avez-vous profité de la chaleur et de la lumière d'un camp de feu, feu de camp, ou même dans la maison pendant l'hiver? Ça, c'est la lumière. Et Jésus nous appelle le sel de la terre et la lumière du monde. Ces deux choses font ce qu'elles font grâce à qui elles sont. Il n'y a pas d'activité visible dans l'être de quelque chose. Et ça, c'est très important. Pendant ces moments quand on ne peut rien faire, il y a quelque chose parfois qui sont cachés. Mais c'est juste en étant ces choses qu'on peut servir Dieu. Un exemple un peu plus concret pour voir l'être de quelque chose et comment ça est lié à faire quelque chose. Si on prend une médecine, qui est placée dans un lieu où il y a des personnes blessées, cette personne-là doit faire son métier à cause de son être. Et ça, c'est belle, n'est-ce pas? Ils vont guérir les gens juste à cause de son être. Elle doit le faire. Elle n'a pas le choix. Juste en étant un médecin, ils vont guérir les gens. Et si nous sommes le sel de la terre, nous allons avoir le même goût que Jésus. Les gens vont remarquer si nous sommes là ou pas. Si notre église est là ou pas. Dans notre communauté. Et ils vont dire, ça a un goût particulier. Ça a l'air de quelque chose de spécial. Nous allons goûter comme Jésus, un peu. On va avoir ces mêmes comportements. Et c'est pour ça qu'il a décrit ces béatitudes. Il nous a dit ces béatitudes. Donc, aller en mission est très important. Et je ne veux pas du tout diminuer la décision que Margot a prise. Et vous aussi. Mais, en tant que l'Église, il nous faut être en mission tous les jours, là, ici, où nous sommes. Pas juste là-bas, mais ici aussi. En tant que ce sel, c'est à nous de conserver les gens qui nous entourent. Il nous faut d'être suffisamment près d'eux qu'ils puissent bénéficier du pouvoir qui découle de notre identité. Si nous sommes éloignés des gens qui n'ont jamais entendu les paroles de Dieu, ça ne sert à rien. Mais il faut être très, très, très près à ceux qui ont besoin d'entendre le nom de Jésus et la puissance de Jésus. Nous habitons dans un monde qui est blessé et nous pouvons être l'agent de guérison pour nos proches, nos collègues, nos voisins, nos familles. Être cette lumière signifie que nous allons attirer les gens. Juste en étant cette lumière, on va attirer les gens. Pour qu'ils puissent profiter de notre lumière et de notre chaleur, il ne faut que briller. Il faut juste briller avec la lumière de Dieu qui reste en nous si on sert Jésus. La question que nous devons nous poser n'est pas comment pouvons-nous faire plus comme Jésus a fait, mais plutôt comment pouvons-nous être plus comme Jésus était. Il faut être comme Jésus. Toute l'activité qu'on fait doit venir de Jésus. Il nous a dit en Jean 15, 5, « Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça, c'est une promesse, c'est une bénédiction de juste demeure en Christ. parce que nous sommes les serments et c'est lui le sel. Nous sommes le sel, la lumière, les serments. Et sans le sel, sans l'œuvre de Jésus dans nos vies, nous ne pouvons rien faire. Et si tu as un cœur pour ta communauté ici, demeure en Jésus. Ça, c'est le truc qu'il faut faire. Si tu veux voir ta famille transformée par la grâce de Jésus, sois la personne qui goûte comme Jésus, qui conserve comme lui, qui est l'agent de guérison comme lui. Ça, c'est notre responsabilité. Juste d'être comme Jésus. Comment pouvons-nous faire de toutes les nations des disciples sans d'abord être ses disciples? Comment pouvons-nous les enseigner sans d'abord savoir, connaître sa voix et ses commandements? Donc, revenons au premier texte que nous avons lu, Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Jésus s'approchait et leur dit, « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous voyez, grâce à qui il est, tout pouvoir a été donné à Jésus. Grâce à qui il est, parce qu'il est Fils de Dieu, il est Dieu le Fils. Et en son nom, nous sommes obligés, nous avons ce privilège de faire ce qu'il nous a dit. On peut aller, on peut faire des disciples, on peut faire tout cela grâce à notre être, juste en étant comme Jésus. C'est par sa grâce, par sa puissance, par sa fidélité, que nous avons été rachetés. Amen. C'est lui qui a fait tout ce travail. N'est-ce pas? Et il nous a promis d'être avec nous jusqu'au bout. Sa présence va nous accompagner dans nos lieux de travail, dans nos foyers. C'est à nous d'être simplement le sel et la lumière, là où nous sommes. Et à travers notre obéissance, il va transformer les cœurs pour que nous puissions faire des disciples. C'est son travail de changer le cœur, de transformer le cœur. C'est à nous d'être des témoignages, des témoignés, des témoins. Merci. Il va nous aider à leur enseigner sa façon de vivre. Nous ne devons surtout pas être empêchés par nos incapacités de faire quoi qu'il soit. Comme moi, avec le français. C'était dur. Mais Jésus nous a dit qu'il est avec nous jusqu'au bout. Comme notre frère a dit ce matin, n'ayez pas peur, n'est-ce pas? N'ayez pas peur, parce qu'il est avec nous. C'est une promesse. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes ses ambassadeurs. Peu importe où nous nous retrouvons, n'importe où, nous sommes ses ambassadeurs. Et ma prière aujourd'hui est que nous puissions avoir un impact dans nos communautés. Vous êtes ici, vous ici dans ce quartier, et pour moi, dans mon église locale, que nous puissions démontrer l'amour de Dieu aux autres. Que nous puissions inviter les gens autour de nous de voir comment on vit, comment nous levons nos enfants, comment on donne aux autres. C'est là qu'ils vont découvrir l'Évangile. C'est compliqué d'organiser un événement d'évangélisation pour 5000 personnes, n'est-ce pas? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué de mettre en scène un spectacle pour annoncer l'Évangile. C'est compliqué d'organiser un dispositif informatique qui suit tous les gens de l'Église pour voir si tout le monde a un mentor ou quelque chose comme ça. Toutes ces choses sont bonnes, sont tous bons, et peut-être ils seraient efficaces, mais ils sont compliqués, n'est-ce pas? Ils sont compliqués, ça c'est vrai. C'est compliqué d'organiser les choses. Vous pouvez demander à Jean, n'est-ce pas? C'est très compliqué d'organiser les choses comme ça. Mais ce n'est pas compliqué d'être le sel et la lumière. C'est simple. Ce n'est pas compliqué de prier pour une voisine. Une voisine. Ça, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de partager ton témoignage avec quelqu'un qui est brisé. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est simple. Ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Ce n'est pas compliqué de demander de Jésus ses yeux, d'avoir ses yeux pour les autres. De demander sa puissance pendant les circonstances difficiles, ça, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de commencer chaque jour en chantant les chants de louange, en lisant la Bible, en prenant quelques minutes dans sa présence, de demeurer en Christ. Ça n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas facile. Mais ça, c'est la clé un peu d'être le sel et la lumière, d'être les sermons, d'être comme Jésus. C'est vraiment juste d'être là, ouvert à ce qu'il veut faire en nos vies. Nous avons besoin de sa grâce, de sa présence, de sa puissance, de finir toutes les tâches qu'il nous a laissées. Comment pouvons-nous être en mission ici et là-bas? C'est en étant le sel de la terre et la lumière du monde, dans nos sphères d'influence, peut-être dans votre travail, peut-être dans votre foyer, je ne sais pas, où Dieu nous a appelés de servir. Mais en étant les sermons qui demeurent en Jésus, on va porter son fruit, n'est-ce pas? Ce n'est pas à nous de faire des fruits, c'est juste à nous d'être comme Jésus. Et si je peux vous encourager ce matin, c'est vraiment de prier pour les opportunités dans votre vie, de juste dire, Seigneur, comment est-ce que je peux être le sel aujourd'hui dans cette circonstance, dans cette situation-là? Comment est-ce que je peux être la lumière qui attire les gens? Pas pour faire quelque chose, mais juste pour être quelque chose. Et en étant ces choses, on va faire ce qu'il faut faire. C'est simple. C'est comme ce médecin qui va faire son métier à cause de qui il est. Et je suis très content d'être avec vous ce matin parce que je sais que vous avez soutenu Margot dans sa décision. Et c'est une bonne chose d'avoir ce service d'envoi pour qu'on puisse être ensemble pour prier pour elle et pour l'encourager aussi. Mais aussi, ça peut être un rappel pour nous tous d'être les missionnaires là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Et peut-être ça, c'est la question pour cette semaine. Jésus, qu'est-ce que je peux être cette semaine? Est-ce que je suis le sel de la terre? Est-ce que je suis la lumière du monde cette semaine dans ma vie et pour ta gloire? Amen. Amen.